Laudetur Jesus Christus.
Un président de transition pour le Mali, l'ancien colonel et ministre Ba Endo, a été désigné par la junte militaire juste avant la fin de l'ultimatum posé par la CDAO, qui exigeait que le pouvoir soit conféré à des civils. Eh bien, c'est chose faite, même si beaucoup de questions restent en suspens. Nous retrouverons notre correspondant à Bamako. Début de l'Assemblée générale des Nations unies en format numérique. Les discours enregistrés des chefs d'État commencent aujourd'hui et la matinée promet d'être dense. Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Poutine, Emmanuel Macron et Hassan Rouhani livreront leur vision du monde. Nous irons également à Beyrouth dans ce journal faire le point sur les négociations entre les partis pour former un gouvernement. Le président Aoun propose un compromis, faute de quoi, dit-il, son pays se dirigera vers l'enfer. Et puis notre dossier explorera ce matin une région de l'Amérique du Sud, le Pantanal, plus grande zone humide au monde, un trésor de biodiversité menacé par les incendies. Nous donnons la parole à un hydrologue qui travaille sur place.
Radio Vatican, le journal, Manuela Affigi.
Bonjour à tous. Près d'un mois après le renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta, le Mali a enfin un président de transition. Il s'agit du colonel-major à la retraite Ba Endo, connu pour avoir été ministre de la Défense du président déchu et avoir servi sous les ordres de l'autocrate Moussa Traoré, décédé la semaine dernière. Une nomination qui vient à point nommé une journée avant l'ultimatum lancé par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui a imposé un embargo sur le Mali depuis le putsch du 18 août à Bamako, Paul Lorgerie.
Et oui, le Mali a un président de la transition et c'est un civil. C'est en tout cas ce qu'avaient demandé les chefs d'État de la CDAO le mardi 15 août dernier, sous peine d'alourdir l'embargo sur les flux financiers et les échanges commerciaux qui commencent à asphyxier le Mali. Un civil, certes, quoiqu'un militaire à la retraite. Et si le nom de Bandao n'avait pas fuité, c'est bien sur ce type de profil que tout le monde spéculait. D'autant que le nouveau président de la transition sera épaulé par le colonel Assimi Goïta, actuel président du Comité National pour le Soutien du Peuple, le CNSP, qui a renversé le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août dernier. Un accord qui semble être unanime au sein du collège chargé de le désigné, composé par 7 membres du CNSP ainsi que de représentants des autorités religieuses, politiques et de la société civile. Et si l'investiture du colonel-major retraité se fera vendredi prochain, reste encore à désigner un premier ministre et un gouvernement pour entamer pleinement la transition. Et pour plaire pleinement à la CDAO qui menace, il faudra que ce premier soit un civil également. Bamako, Paul Lorgerie pour Radio Vatican.
Une journée sous tension qui s'ouvre au Cameroun. L'opposition appelle les habitants à descendre dans la rue pour demander le départ du président Paul Biya ainsi que le report des élections régionales prévues en décembre. Cette marche a été interdite par les autorités. La Côte d'Ivoire accueille le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel en mission pour une semaine dans le pays, un pays déjà agité par des convulsions préélectorales. À peine arrivé, le diplomate onusien a appelé à la retenue et puis à éviter la violence et les discours de haine. Les Nations Unies qui ouvrent leur Assemblée générale, la 75e, mais l'heure n'est pas vraiment à la fête au vu de la conjoncture mondiale. Hier, le secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres, déplorait un manque de solutions multilatérales. Aujourd'hui débute le sommet des chefs d'État très largement numérique. Nombre de discours sont attendus, notamment celui de Donald Trump, le président américain qui, à la veille de ce rendez-vous, a rétabli les sanctions contre l'Iran. À New York, Loïc Loury.
Des mesures punitives, largement symboliques, mais contestées par la majeure partie de la communauté internationale, des sanctions onusiennes, un comble que personne allié ou adversaire des États-Unis n'a approuvé. Voilà dans quel climat s'ouvre aujourd'hui le sommet des dirigeants à l'ONU. Certains chefs d'État, comme en 2019, pourraient adresser un message à Donald Trump. « Je ne crois pas que les crises se résoudront par le repli nationaliste », disait l'an dernier à la tribune Emmanuel Macron. Mais cela ne devrait pas faire fléchir. Le président américain à 6 semaines de la présidentielle, il pourrait même se montrer encore plus dur que d'habitude dans un discours enregistré diffusé aujourd'hui. Donald Trump contre le reste des grandes puissances, voilà qui pourrait occulter d'autres thèmes majeurs de ce sommet, le Covid bien sûr, mais aussi le climat, deux crises mondiales contre lesquelles le multilatéralisme semble être l'arme la plus efficace. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
La tribune virtuelle des Nations Unies aura des airs de champ de lutte aujourd'hui, car car outre Donald Trump, ce sont les présidents russes, chinois, français et iraniens qui vont s'exprimer dans la matinée. Et à cette tribune virtuelle, donc, le cardinal Pietro Parolin s'est aussi exprimé. Le secrétaire d'État du Saint-Siège a réaffirmé le soutien des papes au multilatéralisme. La pandémie nous l'a prouvé, nous ne pouvons penser divisés, mais nous devons porter tous ensemble les fardeaux qui affectent l'humanité, a relevé le cardinal italien. Je vous rappelle qu'un message du pape est également attendu. Un autre sujet crucial qui sera abordé lors de cette 75e session, le Liban, toujours sans gouvernement. Les négociations achoppent sur la distribution communautaire des ministères régaliens. Le président Michel Aoun a donc proposé d'abolir cette disposition. Une suggestion qui n'a pas provoqué l'onde de choc souhaitée. Publiquement, les principales forces politiques n'ont pas réagi. Mais plus discrètement, les contacts se poursuivent pour tenter de débloquer la situation. À Beyrouth, Paul Ralifet.
Les réactions au propos du président Michel Aoun, qui a avancé l'idée d'une rotation des principaux portefeuilles, ont porté plus sur la forme que sur le fond. Ces mots sur le fait que le Liban se dirige vers l'enfer si un gouvernement n'est pas formé ont suscité un véritable tollé sur les réseaux sociaux. Le mot dièse « nous allons en enfer » avait été partagé quelque 23 000 fois lundi soir sur Twitter. Beaucoup d'internautes ont qualifié le président Michel Aoun d'oiseau de mauvais augure et lui ont reproché de n'annoncer que des malheurs aux Libanais. D'autres ont souligné l'élocution difficile du chef de l'État âgé de 85 ans et lui ont conseillé de prendre sa retraite. Des manifestants se sont rassemblés en soirée sur un pont jouxtant le centre-ville de Beyrouth pour réclamer son départ en scandant des slogans qui lui sont hostiles. Sur le plan politique, une des rares réactions est venue du mouvement chiite Amal, qui exige que le ministère des Finances lui soit attribué. Une source de cette formation, citée par une chaîne de télévision locale, a appelé à l'abolition totale de la répartition confessionnelle qui régit le système politique libanais. Paul Khalifeh, Beyrouth, pour Radio Vatican.
L'actualité internationale reste bien évidemment marquée par la pandémie. Plusieurs pays relèvent le niveau d'alerte face à l'augmentation des cas. C'est le cas de la Grande-Bretagne, où le Premier ministre a indiqué que les bars, pubs et restaurants devront fermer à 22h à partir de jeudi. Nombre de cas croissant aussi en France, en Algérie. En Argentine, c'est le nombre de décès qui a augmenté hier, malgré un confinement qui dure depuis près de 6 mois. La Grèce aussi enregistre plusieurs nouveaux cas. 240 ont été recensés dans un camp de demandeurs d'asile sur l'île de Lesbos. 8 cas ont aussi été détectés dans l'un des monastères orthodoxes du Mont Athos. Nouvelle restriction de rassemblement également au Québec. Les messes, par exemple, ne pourront accueillir que 25 à 50 personnes et les évêques s'insurgent. Ils décrivent une situation décevante et inacceptable. Ils mettent en avant leur esprit de collaboration et leur respect des règles édictées par les autorités, mais dénoncent un manque de dialogue. Ils demandent que les lieux de culte soient considérés à leur juste valeur. Le nombre de parlementaires sera réduit d'un tiers en Italie. C'est le résultat du référendum constitutionnel qui était organisé ces 2 derniers jours dans le pays. La réforme a été largement approuvée par les électeurs. Une victoire que revendique le mouvement 5 étoiles au pouvoir. Blandine Gonnet.
Lors des prochaines élections législatives, le Parlement italien sera réduit d'un tiers de ses élus. Dans l'hémicycle, ils passeront de 945 à 600. Ainsi en ont décidé les Italiens. Au référendum qui s'est tenu dimanche et lundi, la victoire du oui est écrasante. 46 millions étaient appelés à s'exprimer pour ou contre la réduction du nombre de parlementaires et plus de 70% l'ont approuvé. C'est un résultat historique. C'est tout de suite félicité Luigi Di Maio. Le ministre, ancien patron du mouvement 5 étoiles, avait tout misé sur cette consultation. Sa formation anti-système qui partage le pouvoir avec les démocrates est en perte de vitesse. Et l'échec aux élections régionales, elles aussi organisées hier, était attendu. Même si tous les grands partis ont aussi soutenu cette réforme, c'est un test réussi pour les 5 étoiles. Depuis des mois, le mouvement populiste en avait fait son cheval de bataille. Réduire les effectifs au Parlement, c'est avant tout réduire les coûts du fonctionnement au pouvoir. 100 millions d'euros d'économies seront faites par an. Une promesse de Luigi Di Maio qui prévoit maintenant de tailler les salaires des parlementaires. Mais puisque c'est une telle victoire d'amputer le Parlement, autant le dissoudre dès maintenant, a réagi l'opposition d'extrême droite qui rêve à de nouvelles élections. À Rome, Blandine Gonnet pour Radio Vatican.
En France, une pluie d'hommages pour Michael Landal, décédé hier à l'âge de 89 ans. Icône du cinéma et du théâtre, l'acteur franco-britannique a incarné plus de 200 rôles. On se souvient surtout de son interprétation émouvante de Frère Luc de Tibérine dans Des hommes et des dieux en 2010. Interprétation qui lui avait valu un César. Catholique engagé, il avait donné sa voix à Bernard de Clairvaux ou encore mise en scène des spectacles sur Saint-François ou Sœur Emmanuelle. La banquise polaire de l'Arctique a atteint sa deuxième superficie la plus basse jamais enregistrée. La fonte de la glace de mer a été particulièrement marquée la première semaine de septembre. Le retrait est très important dans les mers au nord de la Scandinavie et de la Russie. Cette fonte spectaculaire s'inscrit dans une tendance lourde à la disparition de la banquise. Prenons ce matin la direction du Pantanal. Ce territoire qui s'étend entre le Brésil, la Bolivie et le Paraguay est la plus grande zone humide de la planète. Une région très peu connue, isolée, difficile d'accès, habitée par des peuplades indigènes. Le Pantanal est un paradis pour de nombreuses espèces. Recueillant les eaux du fleuve Paraguay, cette plaine alluviale génère de grands marais durant la saison humide. Mais cette année, ce paradis de la faune et de la flore est devenu une étuve, car depuis plusieurs mois, des incendies dévorent tout sur leur passage. Plus de 23 000 km² sont déjà partis en fumée. Alors comment expliquer cette catastrophe écologique? Élément de réponse avec Pierre Girard, hydrologue, professeur à l'université de Mato Grosso au Brésil.
La saison humide, c'est généralement de fin octobre jusqu'en avril. Alors là, il pleut et puis on a une inondation. C'est un territoire très particulier. Alors là, à ce moment-là, c'est très humide. Et puis après ça, les eaux retournent vers les canaux des rivières, et puis ça commence à sécher. Et déjà au mois de mai, c'est déjà très sec. Sauf que l'année passée, il y a eu très peu de pluie, il y a eu une petite inondation. En 2019-2020, on a eu très peu de pluie, et on a maintenant une très forte sécheresse avec des hautes températures, alors ça a beaucoup séché. Et puis, quand les feux ont commencé, ça a été très facile de se propager.
Comment l'expliquer, cette sécheresse? C'est un événement météorologique ponctuel qui arrive ou parlerait-on d'une conséquence du réchauffement climatique?
On peut penser que c'est une conséquence du changement climatique parce que de plus en plus, si on regarde au niveau mondial, on a de plus en plus de sécheresse dans tout le globe. C'est pas juste au Pantanal. De plus en plus d'incendies aussi. L'incendie du Pantanal, ça s'inscrit dans un contexte où est-ce que le changement climatique, ça nous donne des sécheresses plus intenses et surtout plus prolongées. On a maintenant un moment climatique très favorable au feu. Puis il y a des conditions qui sont actuelles, mais il y a aussi tout ce grand changement qui est en train de se produire, le grand changement climatique.
Selon certains chercheurs, c'est la déforestation en Amazonie, un peu plus au nord du Pantanal, qui est une des causes de cette sécheresse. Alors, comment expliquer ce lien?
La forêt amazonienne, on peut la percevoir comme une sorte de grande éponge qui capture l'humidité qui vient de l'océan Atlantique et qui la recircule dans l'atmosphère. Et les courants atmosphériques prennent cette humidité et l'amènent vers le Pantanal et aussi le sud-est du Brésil. La forêt amazonienne, c'est comme une sorte de grand distributeur d'humidité dans tout la zone centre-ouest et sud-est du Brésil. Et comme la forêt diminue annuellement, on pense qu'il y a de moins en moins d'humidité qui circule vers le sud-est, vers le centre-ouest où le Pantanal se trouve. Il y a de moins en moins d'humidité qui circule. De plus en plus, on a des saisons des pluies moins abondantes et surtout plus courtes à cause de ce phénomène-là. Si on pense un jour qu'il n'y aura plus d'Amazonie, il y a de fortes chances que dans le Pantanal et dans le sud-est, il y a vraiment très peu de pluie.
A-t-on une idée du temps qu'il faudrait pour que la nature, la faune, la flore récupèrent ses droits après ces incendies?
Une idée précise, on n'en a pas, mais si on pense aux grands mammifères qui ont été touchés, comme les tamas noirs, les jaguars, par exemple, les grands fourmiliers, c'est des animaux qui n'ont pas un taux de reproduction très, très rapide. Ils ne produisent pas beaucoup de nouveaux-nés chaque année. Sans doute que ça va prendre plusieurs années avant de se récupérer. Pour la végétation, ça sera sans doute assez rapide. 2 ou 3 ans pour la végétation de type savannique. Pour la partie forêt, ça va sans doute être beaucoup plus long. Puis ça va dépendre aussi de ce que les humains vont faire après, l'année prochaine. Est-ce qu'on va dire, bon, ça a déjà tout brûlé, alors on peut installer l'agriculture, ce qui n'était pas permis jusqu'à maintenant. Ça va dépendre beaucoup de ce qui va être décidé politiquement pour le territoire. Si on dit non, on va laisser se récupérer tranquillement, donc peut-être que d'ici 20 ans, ça sera sans doute assez bien récupéré pour une bonne partie des groupes, peut-être pas tous. Mais si on décide d'occuper le territoire parce qu'on dit « Ah, c'est tout brûlé maintenant, on va l'occuper », alors ça ne se récupérera pas.
Voilà, interrogé par Marine Oriot, Pierre Girard, hydrologue, professeur à l'université de Mato Grosso au Brésil, était ce matin l'invité de Radio Vatican. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité vaticane et internationale revient comme d'habitude, vous le savez, à 13h. Je vous y retrouve avec grand plaisir. D'ici là, je vous souhaite une très belle matinée.